Bonjour à tous et bienvenue sur Kixa pour un nouvel épisode qui va être un peu décalé et très proche de l'histoire puisqu'on reçoit aujourd'hui Hugo Chausser-Lapré. Salut Hugo. Alors aujourd'hui, en plus de ça, on a Luigi, que ça fait peut-être, je ne sais pas, 4-5 semaines qu'on n'a pas fait d'émission ensemble. Coucou Luigi.
Salut.
Et en plus de ça, tu m'as dit, Hugo, qu'aujourd'hui, le hasard faisait que tu étais avec ton ami qui s'appelle Antoine Chouin, c'est bien ça? Chouan, pardon. Salut Antoine. Donc toi, tu es professeur de philo.
Tout à fait, oui.
Voilà, je vais juste couper un instant. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, on t'entend okay. Très bien, Luigi.
Est-ce que je peux faire un petit test micro quand même, au cas où?
Oui.
Parce que je suis en régie. Donc du coup, est-ce que vous pouvez parler chacun votre tour, genre dire bonjour?
Bonjour.
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 Vous entendez tous bien?
On s'entend très bien.
Au top, bah, c'est bon, on peut y aller.
Ouais. Et donc, l'idée, c'était que, bah, comme le hasard faisait que tu rendais visite à ton ami Hugo, bah, qu'on t'accueillait avec nous avec grand plaisir. Et quand j'ai appris que tu étais prof de philo, je t'ai évidemment recruté. Donc, toi, tu as la place de roi, puisque tu as le droit de ne pas parler du tout, si tu veux juste être spectateur, et puis intervenir si au bout d'un moment, on dit des trucs trop intéressants. Ça te va comme deal?
Très bien.
Ok. Alors, Hugo, toi, tu es professeur agrégé dans le supérieur, puisque tu travailles à l'université Aix-Marseille, et tu as étudié et écrit sur l'Antiquité grecque et romaine, et notamment les thèmes qui t'ont intéressé, c'était vachement le consensus politique, la démocratie, la vérité et la mémoire, le conseil dans la démocratie athénienne, et puis tu as fait tout un travail aussi de comparaison dans le mode mode de décision, et finalement tu es parti vers les royautés hellénisques, donc ça fait quand même un bon paquet. Voilà, je pense qu'on peut dire que ton cerveau a des pecs.
Qu'est-ce que les royautés hellénistiques, du coup?
Oui, très bonne question. Alors effectivement, c'est parti un peu dans tous les sens dans mon cursus. Je dois dire qu'il y a, dans ce cursus, il y a eu une année clé, 2012, où en fait j'ai découvert la question de la vérité, et j'ai descendu vers la question de la vérité et la question politique à travers le thème du conseil au souverain, que ce souverain soit un roi, ou ce qu'on appelle un démos en grec, c'est-à-dire un peuple, comme le peuple athénien. Et donc, j'ai glissé doucement, pour des raisons purement de rentabilité académique, vers...
ça existe, ça, la rentabilité académique?
Oui, c'était plus évident à faire, et il y avait plus de place pour moi, c'était plus évident dans le cadre du temps qui m'était imparti pour mon travail. Et donc, j'ai glissé vers les royautés qu'on appelle hellénistiques, c'est-à-dire ces royautés qui émergent en Grèce ancienne, dans un monde grec un peu... est plus étendu que le monde grec continental, qui apparaissent après Alexandre le Grand, le règne d'Alexandre le Grand, à la fin du IVe siècle, qui s'instituent et qui disparaissent avec la fin du royaume grec d'Égypte, dont la dernière souveraine est Cléopâtre.
Et donc, c'est quoi qui t'a intéressé dans tous ces sujets-là? Parce qu'il y a un côté à la fois très politique, purement politique, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu de quand tu vois, tu parlais quand il y avait quand tu travaillais sur le mode de décision, il y a quelque chose, j'ai l'impression, dans ton cursus qui interroge comment l'esprit critique, en fait, j'ai l'impression.
Exactement. Alors, c'est la difficulté que moi j'ai rencontrée dans toutes mes études, et en particulier quand j'ai commencé à être payé pour elles. C'est le sens que j'attribuais à ce que je faisais, à ce savoir que je produisais, que j'accumulais pour le produire, et dont j'ai voulu évidemment le socialiser, et j'avais du mal à saisir le sens de ça, de livres qui sont pas vendus, qui sont très peu lus. Et donc assez naturellement, presque vitalement, je me suis tourné vers des questions qui sont des questions qui m'interrogent moi dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde démocratique, monde où en fait ce qui moi m'apparaît comme central, c'est la question de la puissance politique, okay, des individus, des citoyens. Et cette puissance, elle se révèle jamais plus que dans la fabrique de ce qu'on peut appeler la décision, hein, c'est le titre de ma thèse, mais dans la manière dont on peut s'accaparer ou non, posséder ou non une part de la décision politique. Évidemment, je n'ai pas pu traiter cette question en histoire contemporaine, donc je l'ai projetée. J'ai projeté ces interrogations présentes, contemporaines, vitales pour moi, dans un passé qui me paraissait suffisamment riche pour accueillir ces réflexions qui, en réalité, se portent vers mes étudiants et mes étudiantes, mais également
Et tu es en train de faire ma transition parfaite, puisque, effectivement, ce qu'on n'a pas dit aux auditeurs qui potentiellement nous suivent tous les vendredis avec loyauté et fidélité, c'est que la semaine dernière, on a invité Marie Sébéiotte, qui est historienne sur le royaume du Congo. Et donc, ce qui était intéressant dans notre rencontre, c'est que tu me disais, bon, moi, je veux bien parler de mon domaine d'application, mais ce qui me fascine vraiment et me porte dans la vie, c'est mon métier de prof. Et donc, j'ai l'impression que quand là, tu me dis, ah ben, j'ai eu du mal à retrouver ce qui te fascinait dans ces études-là, dans le côté vraiment pur et dur, écrit, thèse, etc. J'ai l'impression en fait que tu l'as trouvé dans ton métier de prof, quoi. Donc ma question est la suivante, pourquoi es-tu devenu prof ? Comment t'es tombé amoureux de ce métier-là en tout cas ?
Alors oui, c'est vrai que c'est une question pour le coup encore une fois centrale, merci beaucoup. Et effectivement, c'est ce qui m'attire le plus, je m'en aperçois, c'est l'enseignement, c'est le fait de m'adresser à des étudiantes et de socialiser le savoir qu'on produit, qu'on lit dans le cadre de notre recherche. Recherche qui est extrêmement importante quand on est enseignant-chercheur, parce qu'il faut pouvoir divulguer en situation ce qu'on est capable nous-mêmes de digérer, de produire. Et évidemment, ce qui me paraissait plus vivant pour moi, pour mon corps, pour mon âme, si je dois dire, c'est d'avoir des paires d'yeux et d'avoir une adresse en fait, possible à ce que je fais, à ce que j'aime, parce que j'aime la Grèce ancienne. Je pense que la Grèce ancienne, elle propose je dirais pas des modèles, mais elle propose un terreau extrêmement fertile pour penser les questions politiques, notamment sur le plan de la démocratie, puisque on a beaucoup projeté Athènes comme une démocratie, qui est un modèle, une démocratie qu'on appelle directe, à l'aune de laquelle on s'est un peu pensé, à l'aune de laquelle on a élaboré la nôtre. Et moi, c'est la question centrale, j'arrive à articuler dans l'enseignement, c'est pour ça que ça m'intéresse, j'arrive à articuler autour notamment de la question de la démocratie athénienne, qui n'est pas mon sujet de travail, de recherche. J'arrive à articuler ce désir de penser des questions contemporaines et de penser notamment à la question de l'autonomie politique, la puissance politique de mes étudiants et de mes étudiantes.
Alors déjà, j'ai besoin que tu me dises ce que c'est que l'autonomie politique, parce que je ne suis pas sûre de comprendre le terme.
Oui, donc l'autonomie politique, c'est cette capacité à être d'une certaine manière maître de ses choix, maître de l'avenir, de notre avenir. De se donner à soi-même sa propre règle, en fait. L'autonomie, c'est la capacité à se donner à soi sa propre loi. Elle est, de ce point de vue-là, dissociée absolument de la dépendance, de la servitude, de l'esclavage. Et les Grecs pensent énormément la question de l'autonomie. Ils en font, avec la question de la liberté qui lui est associée, le cœur même de la citoyenneté, en Grèce et en particulier à Athènes, et le cœur même de l'inscription des citoyens athéniens, qui sont des hommes, sur le plan politique, exclusivement des hommes, ils en font le cœur de la définition de la citoyenneté et de la démocratie. Et moi, je projette ça sur notre monde, sur les individus, sur le peuple français, et évidemment sur mes étudiants et mes étudiantes qui, sont prises dans des cadres qui sont extrêmement institutionnalisés, dirigés, disciplinaires. Et donc, j'essaye de produire, de tester, d'éprouver une forme d'autonomie à travers les questions grecques de la démocratie qui me paraissent riches.
Et en plus, c'est particulier parce que je pense aussi au fait qu'aux âges de tes étudiants, c'est-à-dire que c'est pile au bon âge. C'est-à-dire que toi, au minimum, ils ont 18 ans et 2 jours hein, quand ils arrivent dans ta salle. Donc, c'est intéressant de... Est-ce que toi, d'ailleurs, est-ce que l'âge de tes étudiants, tu sens que ces questionnements-là les touchent d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas?
Alors oui, exactement, ce sont mes étudiantes, elles sont d'un âge, elles sortent du lycée la plupart du temps, enfin 18 ans, elles sortent d'une institution est quand même un peu fermée, rigide, qui est le lycée, et je vois bien qu'il y a quelque chose à découvrir, ou en tout cas à leur faire découvrir, sur le plan en fait, de l'analyse, du déchiffrement de ce qui nous arrive, de nos réalités. Et en histoire, moi, c'est ma perspective, au moins quand j'enseigne à des premières années. J'adore enseigner à des premières années parce que précisément, j'ai l'impression de ne pas avoir à former des historiens et des historiennes dans la mesure où la plus grande partie ne deviendra pas historien et historienne. Et donc, ma perspective, elle m'est propre, je ne sais pas si elle est bonne, c'est de former, mais je leur dis et que j'explicite le plus de choses possible, des citoyens et des citoyennes. Donc, de les doter d'outils d'analyse, de décryptage des phénomènes qui passent pour naturels dans notre monde. Alors, à partir du terreau antique, pardon.
Excuse-moi, je vais intervenir. Pour moi, personnellement, en fait, je trouve que c'est vachement bien, mais c'est dommage que ce ne soit pas fait avant. C'est dommage que ce ne soit pas pris avant la majorité, parce que je pense qu'à partir de plus jeune, on a la capacité de comprendre, d'avoir un sens critique et de pouvoir avoir aussi un jugement sur la politique d'aujourd'hui, la politique d'avant. Enfin, je veux dire, on a des cours d'histoire géo. Mais en fait, c'est ça que je trouve qui est vachement intéressant de ton approche, parce qu'on voit beaucoup au collège, au lycée, il n'y a pas cette même approche à faire une espèce de parallélisme entre notre entre aujourd'hui et hier. Alors que à la fac, en tout cas, ce que tu es en train de dire, ce que je suis en train de comprendre, c'est que tu t'aides de la Grèce antique pour justement faire un parallélisme sur notre présent aujourd'hui et aider tes étudiants à prendre conscience de certaines choses qu'ils n'avaient peut-être pas pris conscience jusqu'à maintenant, quoi.
Oui, c'est exactement ce que je fais, c'est-à-dire je joue sur la question tout en étudiant précisément mon objet, leur objet, la démocratie athénienne par exemple. Je joue sur les écarts, j'essaye de rendre visibles les écarts entre cette démocratie et la nôtre, entre par exemple une démocratie athénienne directe qui fonctionne quasi principalement sur la croyance en l'égalité théorique au moins de tous les citoyens masculins sur le plan politique et qui invente du coup le tirage au sort. Tirage au sort qui invisibilise les distinctions sociales, donc les dominations, et ce tirage au sort qui n'est pas présent dans notre démocratie. Et donc j'essaye de rendre visibles des procédures qui ne sont pas simplement des connaissances que mes étudiants et mes étudiantes doivent obtenir, mais qui sont en réalité des éléments qui leur servent à déchiffrer. Mais pour rebondir sur ta remarque concernant les difficultés à faire émerger ça au lycée, j'ai jamais enseigné dans le secondaire. Donc j'ai un peu de mal du coup à porter un jugement, mais je crois que les enseignants et enseignantes du secondaire font, pour le coup je pense, ce qu'elles peuvent, ça c'est certain. Mais il y a encore une fois, je pense, la rigidité de l'institution et du temps imparti au programme,
etc. En fait, je pense que ce dont tu parles, Ludie, c'est moi, je l'ai beaucoup rencontré du coup en philo. Moi j'étais en L et c'était ma filière de vocation, j'avais envie de faire ça depuis le collège et tout. Et en fait, la philo, ça a été une discipline extrêmement frustrante et décevante, mais pas dans le sens où j'ai découvert la philo et que je me suis dit « Ah ben non, en fait, je m'étais fantasmé la philo et c'est pas si cool que ça. » Mais c'est plus qu'en fait, on était déjà au bac. C'est-à-dire que moi, ma première année de philo, c'est mon année de terminale. Pour se rendre compte, mon année de première L en anglais et en histoire, les profs, ils étaient au taquet parce qu'on était une classe de cinéma art plastique. Donc du coup, ils pouvaient faire tout leur support de cours avec de l'art et on comprenait. En terminale, ils étaient en dépression parce qu'ils faisaient que des types bac. Donc aller apprendre éveillé à ta discipline pour la première fois avec des types bac, c'est quand même un délire. Et j'avais une prof qui était très chouette et vraiment tout était fait pour bien se passer, mais j'étais en pas possible parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit non seulement j'ai pris conscience que j'avais besoin que cette matière-là, elle arrive beaucoup plus tôt dans ma vie pour que je puisse être capable d'être performante au bac. Et en plus de ça, ce qui était très dommage, c'est quand même d'avoir une bonne prof. D'avoir quand même l'éducation nationale à l'époque qui était quand même dans une logique qui se défend de dire on va étudier l'amour et du coup on voit tous les philosophes. Sauf que finalement, à l'époque, au moment du bac, j'ai eu 6 de moyenne toute l'année, et au moment du bac, je suis allée voir les vidéos d'Olivier Pourriol, qui est un philosophe qui est jeune, ouais. Il était jeune il y a 10 ans. et en fait, lui, il prend des classes de terminale, il les met devant des films, et il dit aujourd'hui on va étudier Kant, bam. Et il te fait 2 heures de cours magistraux sur Kant. Et en fait, ça m'a permis d'avoir 12 et de bien comprendre. Mais j'ai quitté ça en me disant, mais quel dommage, quoi, de m'empêcher d'aimer la philo, quoi. Est-ce que toi, d'ailleurs, Antoine, qui, du coup, travaille en supérieur, tu ressens les conséquences de ce que je te dis là, quoi?
Alors, moi, je travaille pas encore dans le supérieur. Je suis dans le secondaire, justement.
Ah, ok, trop cool.
Ah, c'est intéressant.
Ouais.
Alors, moi, je m'intéresse sur cette question de savoir si la philo doit être enseignée plus tôt. Elle doit nécessairement s'accompagner d'une interrogation sur le fait de savoir déjà si la philo est adéquate au mode d'enseignement qu'on nous impose dans le cadre du lycée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on conditionne la philosophie à un programme, à un examen comme celui du bac, avec des programmes qui sont aberrants du point de vue du peu de temps dont on dispose, du fait que l'année est toujours ponctuée par un certain nombre d'événements qui nous empêchent de faire cours, etc. Ce qui fait qu'on est toujours nous pris, quelle que soit la volonté qu'on y met, même s'il y en a qui mettent plus de volonté que d'autres, mais par des impératifs qui nous empêchent de, au fond, de pratiquer la philosophie. C'est-à-dire ne serait-ce que de...
Oui, pardon. Vas-y, termine.
Non, c'est bon.
En fait, je pense qu'effectivement, la philosophie, en vrai, elle devrait être partout. Tu vois,
oui,
en
bien
fait,
sûr.
La philosophie, elle devrait être enseignée. Elle devrait pas être enseignée dans une case. Avec un programme, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est la manière dont on va aborder la chose qui va peut-être être un peu indélicate. Et je pense la différence entre l'école secondaire, enfin l'université et le lycée, par exemple, c'est qu'en fait, à l'université, il y a plus de liberté et du coup dans l'enseignement, alors que au lycée c'est plus catégorisé, tout est foutu dans une case, alors qu'en fait les maths on le voit partout, la philosophie on devrait l'avoir partout, l'histoire géo etc. En fait on devrait faire un parallélisme à chaque fois, parce qu'en fait c'est ce qu'on va vivre au quotidien, et tout cet enseignement va nous servir dans la vie de tous les jours. Donc en fait je pense que, et je voulais savoir, toi, par rapport, vous avez eu tous les deux en fait des études différentes, en fait, puisque tu vas bientôt, tu es au lycée, en fait, tu enseignes au lycée, c'est ça ?
J'enseigne au lycée, oui.
Et toi, à l'université. Mmh. Donc, quelle est la différence dans ce que vous, vos études et l'enseignement que vous avez eu, quelle est la différence ? Pourquoi est-ce que ça change autant que ça quand on est à la fac et quand on est au lycée ?
Est-ce que ça change autant que ça ? Ce qui change, c'est qu'il y a effectivement la partie recherche à l'intérieur de l'université, et qui par ailleurs chez beaucoup de profs, enfin, moi dans les souvenirs que j'ai de mes cours de fac, empiète largement sur la dimension pédagogique. C'est-à-dire que moi j'ai eu majoritairement des chercheurs, mais très peu de profs dans mon cursus. Donc je pense qu'elles finissent par être dissociées, parce, pour des raisons qui m'échappent, mais qui sont aussi des raisons institutionnelles. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'enseigner devant un public qui est plus de 45, 50.
C'est sûr. Ouais.
Là, la question de l'adresse, comme tu disais tout à l'heure, elle se pose. Parce qu'à qui on s'adresse ? Qu'on s'adresse à... Déjà, à 35 élèves en terminale, c'est compliqué. À 50 ou 60.
Et puis, moi, j'aimerais bien faire le lien entre la question que tu viens de poser, Antoine, et ce que tu disais, Hugo, tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le cadre du lycée, quand même, toi, ton problème, c'est d'arriver à convaincre des gens qui... C'est l'école, c'est l'acquis, quoi. C'est-à-dire que ça y est, on a gagné. L'école, c'est un acquis en France. Donc, les enfants, ils ont envie de sécher, ils n'ont pas envie d'être là. Il faut que tu les convainques de s'investir. Donc, toi, ton problème, c'est de dire... Et oui, il faut que tu viennes vers moi. Alors que Hugo, le cadre dont il parlait, c'est qu'il disait, ben moi je fais cours pour tout le monde. Or il a évoqué que tu disais qu'il y avait quoi, 30% de TL1 qui allaient finir en L2, et que du coup il y a un espèce de, moi j'aimerais bien vous entendre parler de ça en tant que prof. Comment est-ce que, qu'est-ce que ça touche chez vous dans vos pratiques, le fait de se dire, ben je suis en face d'élèves qui sont obligés d'être là, et moi je suis en face d'élèves qui font ma matière pour la culture générale, mais en vrai l'année prochaine ils seront pas là, quoi.
Bah, je peux essayer de rebondir là-dessus, en tout cas au moins mes situations, c'est que il y en a 30% à peu près qui passent en L2 et qui vont devenir historiens ou enseignants, historiens, historiennes et enseignantes d'histoire. Je sais pas, il doit y en avoir peut-être 10%, 5%. Ce qui change, c'est que de fait, je donne beaucoup moins de cours qu'Antoine. J'en donne possiblement deux fois moins. Donc, l'épreuve des contraintes qui pèsent chez les étudiantes et qui fait qu'elles ne vont pas écouter, ou elles sont beaucoup plus absorbables par moi, je peux passer, laisser glisser un certain nombre de difficultés à leur enseigner. Je pense qu'Antoine, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est la routine de son travail d'enseigner, donc la moindre dérapage, la moindre difficulté devient plus problématique. Par ailleurs, moi, il y a quelque chose qui change, c'est que moi, je postule leur liberté. Je postule leur liberté d'être ici, et je la postule tellement que je fais jamais, enfin très peu l'appel pour les inciter à n'être là que si ils et elles le veulent, à ne pas être contraintes. À venir, et surtout à ne pas subir la peur de voir leur bourse sauter, parce que c'est une peur qui est très réelle. Mais je me pose beaucoup de questions à ce sujet, parce que je ne sais pas dans quelle mesure je ne suis pas simplement en train de m'acheter moi ma propre liberté en ne faisant pas l'appel et en ne construisant pas un cadre plus contraignant pour elles et pour eux qui pourrait les inciter, les aider davantage que de les laisser un peu dans la nature en postulant une liberté qui en réalité n'est pas exactement la leur, parce que il et elle sortent du lycée où cette liberté existait beaucoup moins. Mmh. Et je peux essayer peut-être laisser la parole à Antoine à ce sujet, sur leur liberté et sur les contraintes qui pèsent.
Oui, non, c'est une question compliquée, parce que l'espace du lycée est déjà beaucoup plus contraignant que celui de la fac, puisqu'il est... Même si l'effectif est beaucoup plus, tente à se rapprocher de celui de la fac, puisqu'il y a quand même eu des expérimentations dans certaines académies de classes à 50 ou plus, alors pour des raisons qui m'échappent, mais qui correspondent à la ligne de l'éducation nationale. C'est-à-dire, enfin bon, l'ancienne ministre de l'éducation nationale a quand même supposé que des classes à 35 c'était une nécessité parce que ça crée l'émulation entre des élèves.
Wow.
Moi, je vois pas exactement excuse. Ce que c'est.
C'est un peu une excuse pour dire on n'a pas envie d'embaucher les
profs.
C'est
clair.
Non, il y a les moyens, on n'a juste pas envie.
Oui, c'est ça. Donc oui, le cadre, étant donné que le cadre les individualise beaucoup plus, alors effectivement, ils sentent de toute façon observés. Et en fait, la manière dont l'espace est configuré fait que de toute façon, ils le sont. Bon, on voit beaucoup moins ce qui se passe dans un amphithéâtre que dans une salle. Bon, c'est une évidence. Mais donc ça crée tout de suite un cadre disciplinaire. Mais sur la question des contraintes, c'est vrai que moi c'est une question que je continue à me poser, c'est à quel point est-ce que le lycée doit être impérativement quelque chose comme une hétérotopie, c'est-à-dire un lieu qui devrait avoir un système normatif qui lui est propre.
Ah, donc hétérotopie, ça veut pas juste dire il y a des hétéros partout?
Non.
Ah, ok. C'est mon côté queer qui est ressorti. Ça, je suis un peu déçue. D'accord, je te
continue. C'est un concept qui vient de Foucault et qui vient désigner des lieux qui disposent d'un système normatif qui sont des lieux qui peuvent être à la fois entre le public et le privé, mais surtout qui ont un système normatif qui est très particulier. On peut considérer peut-être que l'école en fait partie, et moi c'est toujours une question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait de cet espace-là un espace qui est complètement séparé du reste de leur existence? Parce que quand ils rentrent dans la classe, on sent chez eux que c'est déjà compliqué de rentrer dans le lycée, c'est déjà pour eux, ils arrivent le matin, ils sont voilà, tout l'espace, le fait que l'espace soit fermé, enfin c'est un espace public mais qui est quand même entièrement
ça
clôturé.
Ça donne plus envie, hein, et puis toute la journée sur une chaise, c'est sûr que je comprends qu'en fait à l'adolescence ce soit quand même c'est là où on a une énergie débordante, on a envie de faire plein de choses, on se sent un petit peu invincible aussi. Et là on te dit bam, tu vas aller toute la journée t'asseoir sur une chaise et écouter des gens parler.
Ouais.
Et du coup on rend pas attractif le savoir, en fait.
Moi je suis d'accord avec toi, et puis je trouve que surtout en France, comparé à d'autres pays, alors évidemment je pense que celui qui est le plus hardcore là-dedans c'est les États-Unis, c'est que en France l'école n'est pas un lieu de vie. Parce que pour considérer un lieu de vie par des Français, il faut que tu dormes sur place. Et même les internats, il n'y a que l'internat un petit peu. Et moi, je trouvais ça tellement dommage. J'étais très envieuse des lycées américains où tu pouvais faire monter un club d'audiovisuel, de physique, chimie ou de baseball. Et en fait, tu allais organiser des compétitions nationales avec les autres lycées. Et quand tu arrives à la fac devant Hugo, tu peux lui dire, t'as vu monsieur, moi j'ai besoin de passer 3 ans de lycée à faire un club d'histoire, et les profs là-bas vont dire, oh trop bien, c'est presque une matière facultative. Mmh. Alors que nous, on a besoin que ce soit l'autorité, l'institution, le prof qui vienne dire à l'élève, tu as besoin d'un club, donc je vais t'ouvrir avec ma clé sacrée la pièce. Mais il n'y a pas ce truc de, on est très en méfiance je trouve en France, de laisser la clé.
Manque d'autonomie.
Exactement, aux élèves. Et ce qui m'amène d'ailleurs à une question qui, moi, m'a traumatisée pendant ma scolarité, puisque moi, sur le même corpus de texte, je te tape un 16 de moyenne à l'oral et un 8 à l'écrit. Tu vois, on est ce genre d'élèves un peu chiante, en fait. Donc moi, ma question pour vous deux, c'est est-ce que il est plus important, c'est quoi le plus important, focaliser sur les lacunes ou focaliser sur les acquis? Pour les élèves.
Alors moi je peux répondre, je dirais que je vais répondre à côté. c'est moi je focalise, j'essaye le plus possible, et la fac me le permet parce qu'elle me laisse plus de temps à consacrer à chaque élève, étudiant, étudiante. C'est focaliser sur les progrès.
Pour le coup. Ok.
C'est focaliser, et ça je